الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons donc étudier l'explication des quatre règles du noble Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avec l'explication du Cheikh ibn Baz rahmatullah alayh. Et nous allons, bi'idhnillah, ajouter quelques explications d'autres savants, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. فَنَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ أَنْ يَرْزُقَنَا الْإِخْلَاصَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Le Cheikh nous dit en introduction, rahimahullahu ta'ala, le Cheikh al-Imam ibn Baz, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a attiré l'attention sur ces quatre règles, qui sont des principes importants, et celui qui les comprend et les assimile correctement comprendra la religion des polythéistes et celle des musulmans. Et la plupart des gens ne comprennent pas ces règles. C'est pourquoi les choses sont devenues confuses pour eux, et ils se sont mis à adorer les tombes et leurs occupants, les saints, les pieux, les arbres et les pierres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en pensant qu'ils sont sur la bonne voie, et ce à cause de leur ignorance de la réalité du tawhid et celle du polythéisme. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous dit, c'est-à-dire il commence par la basmala, bismillahirrahmanirrahim, je demande à Allah le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois. Donc ici, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, commence par la basmala pour plusieurs raisons. La première, pour prendre exemple, en prenant exemple sur le livre d'Allah, Azza wa Jal, car il commence les sourates. Donc, car les sourates du Coran sont commencées par le basmala. Deuxièmement, en prenant exemple sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence ses lettres par la basmala, comme sa lettre qu'il écriva à Héraclius, l'empereur de Rome, comme cela a été rapporté de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Troisièmement, en prenant exemple sur les savants, et Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit, et l'action des savants a été établie quant au fait de commencer les livres de science par la basmala. L'auteur nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala, je demande à Allah, le généreux, seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur, car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Donc l'auteur nous mentionne ici que le signe du bonheur tourne autour de trois choses. Lorsqu'il reçoit, il est reconnaissant, lorsqu'il est éprouvé, il est patient, et lorsqu'il commet un péché, il se repent et demande pardon. Et si l'individu médite sur cela, il constatera que la situation de l'homme dans cette vie d'ici-bas ne sort pas d'une de ces trois situations. Soit il est éprouvé par une calamité, soit il est comblé par un bienfait, soit il tombe dans un péché. Et il faut savoir que le plus grand des bienfaits est le bienfait de l'islam. Et il n'y a de doute que si tu fais partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé vers cette noble religion, alors sache qu'il t'a comblé du plus grand des bienfaits. Comme le fait qu'il t'ait accordé la réussite dans l'accomplissement de la prière, du jeûne, de la recherche de la science, de l'obéissance aux parents, ainsi que le maintien des liens de parenté. Et il a été rapporté que Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds. Je lui demandais alors, pourquoi agir ainsi au messager d'Allah alors que, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Regardez ce messager d'Allah qui passait ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds alors que ses péchés lui sont pardonnés. Ses péchés passés et futurs lui sont pardonnés. Que dire de nous? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et les savants ont dit que la reconnaissance est shukr après avoir reçu un bienfait de trois types. Le fait d'être reconnaissant avec son cœur, et cela en ayant la ferme conviction que celui qui donne un bienfait et qui donne cette subsistance à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout bien qui touche le croyant provient d'Allah. Deuxièmement, être reconnaissant avec la langue, et ce en proclamant ce bienfait d'Allah, en le louant pour celui-ci, tout en étant reconnaissant. Troisièmement, être reconnaissant avec les membres, en utilisant ce bienfait dans ce qui satisfait Allah, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Quant à la patience, elle est obligatoire. Qu'il s'agisse de maladies, de la perte d'un enfant, d'un proche ou autre, il faut faire preuve de patience et il faut espérer la récompense d'Allah, sans se lamenter. On ne se frappe pas le visage, ni on se déchire les vêtements et on ne prononce pas des paroles d'ignorance, ni de mots vulgaires. Au contraire, il faut endurer et faire preuve de patience. Et wallahi, celui qui observe la situation de certains croyants et certains musulmans qui ont été éprouvés par un malheur, selon eux, comme la perte d'un proche ou autre, et qu'au final, il s'est avéré que c'était un bien. Pourquoi ? Car ils sont revenus vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu de nos propres yeux, certains qui étaient loin de l'islam, et lorsqu'ils ont perdu un proche, subhanallah, ils sont revenus vers la religion d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien. Et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Ensuite, les savants ont dit que la patience se divise en trois catégories. As-sabru ala ta'atillah. La première catégorie, la patience dans l'obéissance d'Allah. Comme le fait de patienter dans la prière, dans l'accomplissement du hajj et le jeûne et autres adorations. Deuxième catégorie, as-sabru an ma'asiyatillah. La patience face au péché, qui consiste à retenir son âme de ce qu'elle désire accomplir comme interdit. Et troisièmement, la patience sur les décrets d'Allah, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima, qui consiste à ce que tu patientes sur les épreuves qui peuvent te toucher, ainsi que les malheurs, ou sur les nuisances que tu peux rencontrer sur ton chemin lorsque tu appelles à Allah. Et les gens se divisent lorsque l'épreuve se présente en quatre catégories. La première catégorie, c'est al-mutasakhkhit, c'est-à-dire celui qui se met en colère et qui s'irrite lorsque l'épreuve et la difficulté se présentent. Et cela est interdit et fait partie des grands péchés. La deuxième catégorie, as-sabir, le patient, et cela est obligatoire. C'est-à-dire qu'il t'est obligatoire de patienter face à l'épreuve, avec ton cœur, ta langue et tes membres. Troisièmement, radi, le satisfait. Et ni celui qui est satisfait de cette épreuve. Et ceci est recommandé. Et c'est un degré au-dessus du sabr. Quatrièmement, al-shakir, le reconnaissant. Et c'est le plus haut degré et le plus complet. Et il est recommandé. Et lorsqu'un individu tombe dans le péché, il s'empresse de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sachant qu'Allah pardonne les péchés et efface les mauvaises actions, et qu'aucun péché n'est trop grand pour qu'Allah ne le pardonne. C'est pour cette raison qu'il ne désespère pas et jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas, ya akhil karim et ukhtil karim, que tu désespères de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la gravité de ton péché, il faut que tu t'empresses de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et te repentir auprès de lui. Et comme cela a été rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua l'histoire d'un homme qui a commis un péché puis s'est repenti. Et il dit, un homme a commis un péché et dit, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah dit alors, mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Et le serviteur récidiva. Et il demanda encore à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner son péché. Jusqu'à ce qu'Allah dise, certes, j'ai pardonné à mon serviteur, qu'il agisse maintenant comme il le souhaite. Et ce hadith prouve, tant que tu es dans cette situation, que tu persévères dans la demande de pardon, que tu luttes contre toi-même pour ne pas tomber dans le péché et pour ne pas commettre d'erreur, sache alors que tu es dans un grand bien. Et sache que si tu commets un péché, mais que tu te précipites vers le repentir et que telle est ta situation, il te sera alors pardonné. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu ibn Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tous les fils de Adam commettent des péchés et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent abondamment. Et sache, Akhil Karim ou Ukhtil Karim, que personne n'est infaillible. On commet tous des péchés. Mais la personne doit savoir qu'elle a un Seigneur qui pardonne. C'est pourquoi, lorsque le serviteur commet un péché, que ce soit son âme faible qui l'y pousse, ou que Shaitan l'y invite, ou encore que ce soit des mauvais compagnons, ou des amis corrompus qui l'y entraînent, il doit immédiatement savoir qu'il a un Seigneur qui pardonne et s'empresser de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » Traduction du sens rapproché, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et sachez qu'Allah aime celui qui demande pardon. Et il n'y a rien qui illustre mieux l'amour d'Allah que ce hadith que nous allons mentionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés, ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'il les pardonne. » Par Allah, mes frères et sœurs, méditez sur ce hadith grandiose. Ô toi qui commets des péchés, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Sache que tu es un Seigneur qui pardonne et qui aime qu'on lui demande pardon. Et si on ne commettait pas de péché, il nous aurait fait disparaître et nous aurait remplacé par un peuple qui commet des péchés, ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'il les pardonne. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui demandait le plus pardon à Allah. Alors qu'il était le messager d'Allah et que ses péchés passés et futurs lui ont certes été pardonnés. Malgré cela, il ne cessait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été rapporté d'après Abi Hurayra radiallahu anhu. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un dire plus souvent Astaghfirullah wa atubu ilayh que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Et Abu Hurayra radiallahu anhu a côtoyé les meilleurs des gens, les plus pieux parmi les compagnons et ceux qui demandaient le plus pardon à Allah. Malgré cela, il n'a vu personne qui demandait plus pardon à Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahmatullahi alayhi nous dit ensuite: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim est al-Hanifiyya, et que tu adores Allah en lui vouant exclusivement le culte. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et le sens d'al-Hanifiyya ici, c'est le fait de se détourner du shirk et de se tourner vers le tawhid, ainsi que le fait de se détourner de l'égarement et du faux vers la droiture. Il faut également savoir que le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Le tawhid consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est spécifique à lui, dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et ses attributs. Le tawhid est ce avec quoi tous les prophètes ont été envoyés et la raison pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un prophète pour lui dire: adorez Allah. Des prophètes pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Et le tawhid est également la raison pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés. Tu n'as pas été créé pour manger, pour boire. Tu n'as pas été créé pour profiter des choses de la vie d'ici-bas, cette vie éphémère, ce bas monde. Mais tu as plutôt été créé pour adorer Allah seul sans rien lui associer. Allah dit dans le Coran, traduction du sens rapproché: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'auteur dit ensuite: lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration ne porte ce nom que si elle est accompagnée du tawhid, tout comme la prière ne porte ce nom que si elle est pratiquée en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme l'impureté corrompt la purification. Donc l'adoration n'est acceptée que si elle est accompagnée du tawhid, comme la prière n'est acceptée que si elle est accomplie en état d'ablution. Donc, si une adoration se mélange à du shirk, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas considérée comme une adoration. Donc la personne qui vient avec une adoration et qui mélange celle-ci à du shirk n'est pas considérée comme une personne qui adore Allah. Comme la personne qui accomplit sa prière du début à la fin, il vient avec les conditions, avec les piliers, et respecte toute la prière. Ceci dit, il prie en état d'impureté. Sa prière ne sera alors pas acceptée et on ne pourra pas dire de lui qu'il a prié. Et l'adoration n'est donc acceptée que si elle remplit deux conditions. La première, la sincérité, et la deuxième, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Traduction du sens du verset: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, c'est-à-dire des actions qui sont conformes à la sunna du prophète Hassan, et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit ensuite, rahmatullahi alayh: et lorsque tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et annule toutes les actions, et rend celui qui le commet parmi ceux qui seront éternellement en enfer. Tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose. Il se peut alors qu'Allah te sauve de ce filet qui est l'association à Allah, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. C'est-à-dire, traduction du sens du verset: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et à part cela, il pardonne à qui il veut. Et ceci se fera par la connaissance des quatre règles qu'Allah a énoncées dans son livre. Le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, dit concernant cela: Si le croyant sait que le tawhid est corrompu dès, donc au moment où le shirk se mélange à celui-ci, tout comme les ablutions sont invalidées par l'état d'impureté, il comprend alors que la chose la plus importante qu'il doit connaître est le tawhid. La chose la plus importante qu'il doit connaître est le tawhid dans sa réalité, ainsi que le shirk dans sa réalité, afin de ne pas tomber dans le shirk, ce qui invaliderait son tawhid et l'annulerait, et annulerait sa religion ainsi que son islam. En effet, le tawhid est la religion d'Allah. Le tawhid est l'islam, le tawhid est la guidée. Si une personne accomplit un acte de shirk, c'est son islam qui est annulé, tout comme cette religion. Par exemple, comme le fait d'invoquer les morts, chercher leur secours, insulter la religion, insulter Allah ou le prophète, se moquer d'Allah, se moquer de sa religion, ou se moquer de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, mes frères, combien de nos jeunes et combien de gens on entend, combien de jeunes ou de gens on entend dire que Dieu maudisse, qu'Allah maudisse la religion de ta maman, que Dieu maudisse la religion de ton papa. Imaginez-vous une seconde, si la religion, s'il maudit la religion d'une autre personne dont la religion du père est l'islam, il a certes maudit l'islam et il sort de la religion en disant cette parole. C'est une parole de kufr qu'Allah nous en préserve. Ou le fait de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou considérer illicite ce qu'Allah a rendu licite, alors que cela est connu de manière évidente dans la religion, comme l'adultère ou autre chose de semblable. Et si quelqu'un commet un de ces annulatifs, son islam est annulé, tout comme la pureté est annulée par l'une des causes d'impureté, comme un gaz, le fait d'uriner ou de déféquer. De la même manière, si l'unicité d'Allah ou l'islam est entachée par un annulatif de l'islam, ce tawhid et cet islam est alors annulé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le cheikh nous donne après encore des exemples. Un musulman qui insulte Allah ou la religion ou se moque de celle-ci devient alors mécréant jusqu'à ce qu'il se repente. Et il ne faut pas dire ici qu'il faut établir la preuve sur celui qui insulte Allah. Toute personne sait que le fait d'insulter Allah est de la mécréance. Combien de milliards de personnes sur terre il y a et il n'a pas trouvé une autre personne à insulter qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Celui-là qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala sort directement de l'islam. Et il n'y a aucun doute sur cela. Et donc, il devient alors mécréant lorsqu'il fait cela jusqu'à ce qu'il se repente. De même, celui qui insulte Allah devient mécréant. Celui qui nie l'obligation de la prière devient mécréant. Et celui qui nie l'interdiction de l'adultère devient mécréant. Et celui qui implore les morts ou fait des vœux en leur nom devient mécréant. Ainsi, les annulatifs de l'islam rendent l'islam nul. Donc, rendent son islam nul. Tout comme les causes d'impureté rendent la purification vaine. Et ce qui explique et clarifie la vérité de la religion, c'est d'apprendre ces règles qui sont mentionnées dans le livre d'Allah. Si tu les étudies et les médites, les choses deviendront plus claires pour toi. Fin de citation. Ça, c'est la fin de la parole de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh. Et sachez, mes frères, que le shirk est le plus grand des péchés. Et il n'y a pas un péché qui est plus grave que le shirk. Le shirk consiste à mettre un autre qu'Allah au même niveau qu'Allah dans ce qui est spécifique à Allah, c'est-à-dire dans sa seigneurie et sa divinité, et ses noms et ses attributs. Sais-tu réellement ce qu'est le shirk? Le shirk est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt sur celui-ci. Tout autre péché est susceptible d'être pardonné si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, sauf le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Traduction du sens rapproché, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne, en dehors de cela, à qui il veut. Le shirk est le seul péché qui conduit son auteur en enfer pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Traduction du sens rapproché: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Le shirk est le seul péché qui annule toutes les actions et les rend vaines et caduques. Allah dit dans le Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Traduction du sens du verset: Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Toute bonne action que cette personne a faite durant sa vie jusqu'à la fin de celle-ci, et ensuite il associe à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, toutes ses actions seront réduites en poussière éparpillée. Ya ikhwa, subhanallah, supposons qu'une personne ait vécu pendant 80 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie dans l'obéissance à Allah, à évoquer Allah, en lisant le Coran, en faisant des sadaqat, le hajj, des umrah, mais qu'à la fin de sa vie, il demande le secours à autre qu'Allah. Il invoque des awliyas en dehors d'Allah. Il dit: « Oh Wali Fulan, secours-moi, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Il a certes commis du shirk majeur. Médite, Akhil Kerim. Combien de secondes cela a pris? 3 secondes. 3 secondes, Yahikhwa. En 3 secondes, toutes les actions qu'il a faites pendant 80 ans ont été réduites en poussière. Et celui qui meurt sur le shirk, il n'y aura aucun espoir pour lui d'obtenir la miséricorde d'Allah, et il sera éternellement dans le feu de l'enfer. Aucun espoir. Allah dit dans le Coran: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجَزِي كُلَّ كَفُورٍ. Traduction du sens du verset: et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de ces tourments. Et lorsqu'ils seront châtiés, ils auront encore espoir de revenir dans cette vie d'ici-bas. Et ils hurleront en disant: Allah dit: وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Traduction du sens du verset: et là, ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit puisse réfléchir? Ils auront également espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur allège leur châtiment. Mais Allah dit dans le Coran, traduction du sens: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Traduction du sens du verset: goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Certains exégètes ont dit qu'il n'y a pas de verset plus dur que celui-ci qui est descendu concernant les gens de l'enfer. Regardez, ya ikhwa, méditez sur la gravité du shirk. Ces gens-là, ils vont espérer revenir une deuxième fois sur terre, dans cette vie d'ici-bas. Mais ils ne pourront pas. Ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger leur châtiment. Et Allah, comme Allah dit dans le Coran, il leur sera dit: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. C'est pour ça, ya ikhwa, qu'il faut continuer à appeler au tawhid. Il faut continuer à mettre en garde contre le shirk. Et il faut propager les vidéos et les audios des savants qui parlent de tawhid et qui mettent en garde contre le shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du shirk ainsi que nos familles. Il est donc important, mes frères et sœurs, de connaître le shirk, afin de ne pas tomber dans ses filets. Et comme le poète l'a dit, عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتَوَقِّيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْفِي. Je n'ai pas connu le mal pour le mal, mais plutôt pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas le mal du bien tombera dedans. Et ne te sens pas à l'abri du shirk. Si Ibrahim alayhi salam, qui est le prophète d'Allah, a certains imploré Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver ainsi que ses enfants de l'adoration des idoles, que dire de nous? Que dire de nous? Allah dit: وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَا أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ. Comme l'a dit Ibrahim, c'est et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Que dire de nous, mes frères et sœurs? Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, a dit: وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ. Et qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim? Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes enseigné aux nobles compagnons, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, une invocation qui débarrasserait de tout polythéisme, mineur et majeur. Comme il a été rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a en vous un shirk plus imperceptible que les pas d'une fourmi. Certains compagnons lui dirent: ô messager d'Allah, le shirk n'est-il pas de donner à Allah un associé alors que c'est lui qui nous a créés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu: par celui qui détient mon âme entre ses mains, il y a en vous un shirk plus imperceptible que les pas d'une fourmi. Puis il ajouta sallallahu alayhi wa sallam: ne souhaitez-vous pas que je vous indique une parole? Si vous la dites, Allah vous débarrassera de tout polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. Bien sûr, ont dit les compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: dites, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ. Ô Allah, nous cherchons protection auprès de toi contre le fait de t'associer, quoi que ce soit en toute connaissance de cause, et nous te demandons pardon contre le fait de t'associer quoi que ce soit en toute ignorance. En toute ignorance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur le tawhid et nous préserve du shirk ainsi que nos familles. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le cheikh nous dit, rahmatullahi alayhi, al-qa'idatul oula, c'est-à-dire la première règle, il dit, c'est que tu saches que les mécréants qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah ta'ala est le créateur et le commandeur, et que la reconnaissance de cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et la preuve de cela, et le verset, Allah dit: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Traduction du sens du verset dit: qui vous attribue de la nourriture et du ciel, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront: Allah. Dis alors: ne le craignez-vous donc pas? Cheikh Ibn Baz rahmatullah Ali nous dit ici, en explication et en commentaire de cette règle: sache que les polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont combattus reconnaissaient l'unicité de la seigneurie. Et ici, je vous dis, l'unicité de la seigneurie, comme on l'a vu maintes fois, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, et le gérant de leurs affaires. Et ils n'avaient aucun doute à ce sujet. C'est-à-dire que les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient le tawhid de la seigneurie. Cependant, certains musulmans aujourd'hui pensent que cette forme d'unicité est suffisante, ce qui relève de l'ignorance. Car ainsi, les polythéistes seraient plus savants qu'eux. Ainsi, si quelqu'un reconnaît la seigneurie en disant qu'Allah est son seigneur, créateur et pourvoyeur, cela ne suffit pas, car les polythéistes eux-mêmes l'ont reconnu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » Traduction du sens du verset, « Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » Traduction du sens du verset, « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. » Donc les polythéistes reconnaissent cela, le tawhid de la seigneurie. Et Allah dit, comme nous avons mentionné le verset que le cheikh Mohammed ibn Abu Wahhab a mentionné, traduction du sens du verset, « Dit, c'est-à-dire ô Mohammed, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et le fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez donc vous pas. Puisque vous reconnaissez cela, ne craignez-vous donc pas de commettre l'association avec Allah et de revenir à l'unicité et à la vérité? Ils connaissent ces choses et les reconnaissent, mais cela ne leur a pas été profitable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus parce qu'ils ne voulaient pas l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont plutôt associé à Allah Al-Lat, Al-Uzza, Manat et leurs nombreuses idoles. Et l'unicité d'Allah consiste à vouer l'adoration à Allah seul, en ayant la conviction qu'il est le seul qui mérite celle-ci. Ce qui clarifie encore cela, c'est que les polythéistes disaient « Nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur, comme cela va être expliqué dans la deuxième règle que nous allons voir prochainement. » Ensuite, Cheikh Saleh al-Sheikh Hafidhahullah nous dit « Celui qui médite sur la manière dont le Coran établit la preuve sur les polythéistes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur établit la preuve en commençant par le tawhid de la seigneurie. Et nous avons vu cela dans les versets précédents. Car celui qui est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui donne la vie et la mort, c'est lui qui mérite l'adoration. En résumé, le fait que les polythéistes reconnaissent le tawhid de la seigneurie ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Nous en déduisons que les polythéistes qui sont venus après eux et qui reconnaissent le tawhid de la seigneurie ne signifie pas qu'ils sont croyants. Ainsi, si quelqu'un vient et dit « Je crois qu'Allah est mon Seigneur, le Créateur, mon pourvoyeur, celui qui me donne la vie et la mort. » S'il se limite à ses sens, sans y ajouter l'unicité dans l'adoration, il ne sera pas considéré comme un croyant. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme un musulman, tant qu'il ne reconnaît pas l'unicité dans l'adoration. C'est pourquoi les gens du Kalam se sont trompés lorsqu'ils ont défini l'ilah, c'est-à-dire la divinité. Car eux, ils l'ont défini comme étant simplement celui qui est capable de créer, en disant « Allah est celui qui a la capacité de créer ». C'est pour cela qu'ils disent que le sens de « la ilaha illallah » c'est « la khaliqa illallah ». Il n'y a de créateur si ce n'est qu'Allah. C'est-à-dire qu'ils font revenir à chaque fois donc « La ilaha illallah » ou « Tawhid » de la seigneurie. Et pour eux, le sens de « La ilaha illallah » revient donc au sens au « Tawhid » de la seigneurie. Et c'est là la plus grande erreur à l'encontre de la religion qui a été faite par les gens du Kalam, c'est-à-dire les philosophes et autres. ils ont considéré que le conflit entre les messagers et leur peuple portait sur le tawhid dans la seigneurie. C'est-à-dire, il y a les rois, c'est qu'eux, ils disent que les messagers, c'est comme s'ils disaient que les messagers avaient été envoyés pour transmettre yani le tawhid de la seigneurie. Et que le, la base de leur conflit avec leur peuple, c'était le fait que c'était le tawhid de la, la seigneurie. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout. » Et les preuves sont nombreuses à ce sujet. Que le, la base du conflit qu'il y a eu entre les messagers et leur peuple, entre les prophètes et leur peuple, c'est le tawhid et l'uluhiyya. Et c'est pour cette chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Donc pour eux, si une personne reconnaît que celui qui crée et administre toutes choses est Allah, alors cette personne est selon eux croyante et musulmane. Et Wallahi ya ikhwa, revenez à leur livre et vous verrez comment ils définissent la ilaha illallah. Par exemple, vous trouverez qu'ils disent la ilaha illallah yani wahidun fi dhatihi la qasima lah, wahidun fi sifatihi la shabiha lah, wahidun fi af'alihi la sharika lah. Yani qu'Allah est unique dans son entité, sans aucun associé, qu'il est unique dans ses attributs sans aucun semblable, et qu'il est unique dans ses actes sans aucun associé. Et vous voyez qu'à chaque fois ils reviennent, yani, qu'ils font revenir cela au tawhid al-rububiyya, et pas au tawhid al-uluhiyya. Et cela contredit le sens de la divinité, c'est-à-dire de l'uluhiyya. Car la ilaha illallah signifie « il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah ». Et son sens se réfère donc à l'adoration et non à la seigneurie. Et la preuve de cela est le verset. Allah dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Traduction du sens du verset. Il en est ainsi car Allah est l'unique Dieu véritable alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux. Donc il y a des autres, il y a des autres choses, des autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, mais elles ne méritent pas cette adoration. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration. Donc, ce que veut dire le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab par rapport à cette règle importante, c'est qu'elle est certaine et incontestable sur le fait que les mécréants et les polythéistes reconnaissent l'unicité de la seigneurie. Cependant, cette reconnaissance ne leur a été d'aucune utilité. Elle ne les a pas fait rentrer dans l'islam et ne leur a donné aucun droit, car ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités et ont voué leur adoration à leur fausse divinité. Et ils ont d'ailleurs dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Traduction du sens du verset, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et par Allah, les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris le sens de la ilaha illallah mieux que de nombreux musulmans à cette époque. Wallahi, vous allez auprès de nombreux musulmans, allez leur demander quel est le sens de la ilaha illallah, ils vont vous dire il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de créateur que Dieu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Traduction rapprochée du sens du verset. Quand on leur disait « Point de divinité digne d'adoration à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil et disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Et cela prouve que eux avaient compris le sens de la ilaha illallah. Ils ont compris qu'ils devaient délaisser l'adoration de leur divinité et vouer l'adoration à Allah seul, sans rien lui associer. Si nous observons à notre époque, à celle du Cheikh ainsi qu'avant et après, nous constatons qu'il y a des gens qui croient fermement en la Seigneurie d'Allah, mais associés à Allah dans leur adoration. Cela ne leur sera d'aucune utilité, tout comme les anciens polythéistes. En effet, la règle est que le polythéiste arabe croyait en la Seigneurie. Et de nos jours, il se peut que certains faibles d'esprit, lorsqu'ils entendent quelqu'un dire « Incha'Allah » ou mentionner le nom d'Allah, ou encore affirmer qu'Allah est leur Seigneur et leur Maître, ils pensent alors à tort que cette personne est musulmane, et sont satisfaits de cela. Il est obligatoire que la personne unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, c'est-à-dire qu'elle adore Allah seul, avec ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et qu'elle se désavoue sincèrement du shirk et de ses adeptes. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم